Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between.
Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Je suis Constance, la créatrice et l'hôte du podcast. Dans la vie professionnelle, je suis doula. J'accompagne les futures familles dans la parentalité. Mais ma vraie vie, c'est surtout celle de maman de quatre petites filles qui ont la chance d'avoir deux mamans. Le podcast est né d'un double constat. Le premier est qu'en France, nous devons rassurer sur le fait que les enfants issus de familles extraordinaires vont bien. Le deuxième est que l'accès à la parentalité alternative n'est pas sans soulever de nombreuses questions. Alors chaque épisode du podcast y apporte des réponses éclairées et constructives. Maintenant, place à l'épisode. Vous écoutez l'épisode 2 de la saison 4 du podcast Les enfants vont bien. Ce que j'aime dans cette famille, c'est leur franc-parler. Ils se disent tout, toujours dans le respect, et il semble n'y avoir aucun tabou. On sent que l'éducation prodiguée a été libre et ouverte, que les enfants et les petits-enfants ont été écoutés et entendus. Chaque parole a la même valeur, et c'est encore plus flagrant dans cet épisode. Je vous ai laissé la semaine dernière avec l'histoire d'Odile et Françoise, qui nous ont raconté comment elles avaient construit une famille dans les années 80, entre recomposition et homoparentalité. Aujourd'hui, c'est toujours à cette voix que je vous retrouve, pour entendre la deuxième génération, celle d'Emmanuel, Jérôme et Adrien. Alors, comment reçoit-on cette nouvelle de l'homosexualité de sa mère quand on est ado? Et comment vit-on le fait d'avoir deux mamans dans les années 90? C'est à ces questions, qui vont les plonger dans une certaine introspection, que les enfants d'Odile et Françoise vont répondre, tout en laissant aussi la parole à leur mère. Je vous laisse découvrir ce qu'était la vie des familles qui ont tracé la voie, et je vous souhaite une bonne écoute.
Parlons un peu de la génération des enfants. On va commencer par Emmanuel et Jérôme parce que forcément ils étaient là avant Adrien. C'est un fait, on ne peut pas faire autrement. Donc vous nous avez raconté dans l'épisode précédent comment vous aviez découvert l'homosexualité de votre mère et sa relation avec Françoise. Comment, enfin, ok, c'est bien beau, vous l'avez découvert, mais je suppose qu'à 10 et 12 ans, c'est une sacrée déflagration quand même.
Alors moi quand je dis tout à l'heure que j'ai découvert ça effectivement à travers son journal intime, j'avais vu deux choses dans ce journal. La première chose, c'est qu'il y avait un rejet quand même de François.
Ouais, bah oui. Et papa. Du coup, de ton papa quoi.
Voilà. Donc ces deux choses en fait, ça fait deux grosses nouvelles. Donc on avait compris qu'il y avait à la fois ce rejet et cette attirance pour les femmes. Alors je me souviens plus si ça parlait de Françoise à l'époque. Je pense pas, je sais plus. Enfin voilà donc. Oui, ça m'a fait bizarre sur le moment, je ne vous le cache pas. Mmh. Et j'en ai assez vite effectivement parlé à Emmanuel. Et oui, à l'époque, c'était à la fois pas pensable, en fait. Et enfin, non toléré. Donc, il y a eu de part et d'autre une attitude de rejet d'Emmanuel et de moi, je pense.
Ouais, du coup, par rapport à votre mère.
Par rapport à ça, pas par rapport forcément ouais. À notre mère, mais... par rapport à cette pratique. Et puis après, bon, il y avait cette nouvelle importante aussi de séparation qui est arrivée, comme dit Emmanuel, bien des années après, hein, mais on avait un peu gardé ça pour nous, même si ça a dû profondément quand même changer certaines choses dans notre quotidien.
Ouais.
Moi, comme je racontais tout à l'heure, donc vraiment, j'avais mis des mannequins femmes partout dans ma chambre quand j'ai appris ça pour dire je serais peut-être pas comme ça. Hein, donc, il y avait quand même une...
Ouais.
Un rejet et sauf persuader que de ça.
Puis toi, tu étais en plein début d'adolescence en plus, donc ça devait être compliqué parce que c'est quand même le moment où on s'affranchit vraiment de ses parents par le rejet quelque part. Donc ça devait donner
Moi, j'ai assez bien vécu la séparation de mes parents. J'ai plutôt bien vécu parce que j'en profitais énormément pour sortir sans arrêt. Ils étaient sur nous, donc ça c'était plutôt assez agréable cette période. Après, sur les premiers mois, ça a été difficile pour Emmanuel et moi, je pense, d'accepter parce que c'était encore une fois pas du tout dans l'air du temps. Mais après, on a vite modifié notre état d'esprit et du coup, non, c'était même plutôt agréable. Et moi, j'en parle volontiers à mes amis aussi. Alors, mes proches, hein, je ne crie pas sur tous les toits, c'est pas sur mon CV ou voilà. Mais moi, j'ai pas trop mal vécu cette période de l'homosexualité en elle-même.
D'accord. Et toi, Emmanuel, quand Jérôme t'a dit ça, déjà, tu l'as cru sur parole ? Parce que ça, c'est quand même une sacrée nouvelle, quoi.
Bah, bien sûr, j'ai cru sur parole parce qu'il était complètement bouleversé, donc il y avait pas moyen de douter. J'ai été absolument inutile et inefficace et pas du tout protectrice, ça c'est sûr, parce que j'étais moi-même complètement sidérée. Et en fait, moi, pendant une semaine, ça a duré une semaine, je ne comprenais pas dans ma tête, parce que c'était un impensé, quoi. Je pense vraiment, c'était un impensé à ce moment-là, global. Je comprenais pas comment elle pouvait être ma mère et homosexuelle. Pour moi, je comprenais pas. C'était pas.
Ça n'allait pas ensemble, quoi. Ouais.
Possible, en fait. Ça allait pas ensemble pour moi. Donc, mais alors, ça a duré qu'une semaine. Et en fait, ce que disait Adrien tout à l'heure est hyper intéressant. C'est que je pense que, à partir du moment où on a rencontré Françoise, en le sachant, parce que je redis, donc on le savait, par définition, puisque c'était une lettre, en fait, hein. Pour moi, dans mon souvenir, c'était pas un journal intime, c'était une lettre. Écrite par maman.
C'est un journal, je te dis. C'est un petit bouquin que t'avais, maman.
D'accord. Tu sais mieux que moi.
Et du coup, peut-être vu une lettre par ailleurs que je n'ai pas.
Non, pas plus alors. Et du coup, à partir du moment où on a rencontré Françoise en le sachant, c'est devenu
naturel.
C'est devenu absolument naturel parce que c'était incarné et parce que c'était c'était la personne que maman aimait en fait, et donc du coup nous on pouvait que l'aimer. C'est passé très vite, quoi, cette semaine-là, mais j'ai un souvenir physique de ça.
Enfin, moi je veux pas foutre ma merde, mais il y a quand même eu des relations autres que Françoise à cette période aussi. Et je pense que Françoise avait aussi des relations avec Marie et Martine, parce que ça n'a pas duré que 3 ans, Françoise, contrairement à ce que tu dis avec Marie. Si
3-4 ans, je crois, oui.
Enfin, quand on en a parlé la dernière fois, vous avez reconnu que vous n'étiez pas dans une relation très très exclusive quand même. Mais on peut dire qu'on ne le dit pas dans le podcast. Mais...
Oui, au début, il faut arrêter, je crois pas. Hein.
Alors, non,
moi, j'en ai vu défiler, hein, je peux le dire.
Non, mais c'est vrai qu'il y a eu une période de flottement au moment de la naissance, de la conception d'Adrien. Parce que, bon, moi, j'avais des relations.
Voilà.
Et donc, Odile avait une relation avec, comment elle s'appelle, Arlette, voilà.
Arlette.
Pour on essayait de se séparer. Enfin, tu essayais de te séparer de moi, je sais pas quoi. Enfin, c'était confus là à l'époque, oui.
On l'aimait pas trop, la pauvre Arlette. Elle avait beau faire tous les efforts du monde, on n'était pas très contents.
Merci.
De la
voir.
Et c'était.
Elle était âgée.
La difficulté venait de l'arrivée d'Adrien, ou en tout cas de la conception d'Adrien, ou ça n'avait rien à voir.
Tu te souviens, Adrien, Odile, tu voulais laisser la place au père d'Adrien, tu voulais partir.
Ah ouais.
On arrête notre relation.
Il y a une petite confusion, je pense. Une petite confusion des genres, on peut le dire.
Mais après, c'est pas simple de trouver sa place. Déjà, dans un couple, c'est pas simple. Quand il y a une troisième personne, je pense que ça devient extrêmement compliqué, surtout quand la troisième personne demande à s'intégrer complètement à la famille, quoi.
C'est ça.
J'imagine que ça a dû être très difficile. Ouais.
Maman est une petite souris, elle aime bien être discrète, elle ne veut pas, voilà.
Oui, pas déranger.
Maman ne fait pas disto. Elle ne veut pas déranger du tout.
D'accord. Et alors, du coup, vous avez très très vite admis Françoise, parce qu'effectivement, de l'incarner, c'est clair, hein, ça fait moins peur, hein, quand on connaît les gens, quand on... Voilà, c'est... Mais ce moment de flottement que vous avez eu tous les deux, votre mère, Odile, elle ne s'en est jamais rendue compte ? Ah, vous étiez vachement fort, hein.
C'est pas parce que nos parents, papa était très très distant, lui il était à la fois très occupé et dans sa vie de tous les jours très distant, il vient d'une famille, donc son père était amiral de guerre, d'ailleurs pour la petite anecdote ça peut être sympa aussi, mais il a fait une enquête approfondie sur maman avant qu'ils ne se marient ensemble.
Excellent.
Et je crois qu'il n'avait pas découvert son homosexualité.
C'est là qu'on sent que l'enquête a été très très sérieuse, quoi. Ils n'ont rien laissé passer.
Alors, il y avait ça, et puis sa mère, sa, la mère de papa qui était pas gentille non plus. Et donc, une éducation très difficile, à mon sens, pour eux, et des personnalités un peu renfermées, un peu étriquées, un peu, je sais pas comment dire. Et du côté de maman, donc, sa maman était très pieuse. Elle animait des cours de catéchèse et c'était un peu toute sa vie. Et son papa, médecin illustre et qui est resté très engagé et enfin qui était très occupé aussi, quoi. Tout ça pour venir sur quoi, je sais plus. Que c'était pas simple dans cette période, effectivement, pour l'un et l'autre.
Sur le fait que maman, du coup, s'en est pas rendu compte, c'est ça, c'est ça qu'on parlait, mais moi, je pense que pour ma part, vraiment, elle s'en est pas rendu compte parce que ça a duré très peu de temps. Sinon, elle s'en serait rendue compte. Mais comme ça a duré très peu de temps, c'est pour ça qu'elle s'en est
pas rendue compte. Ça a pas duré très peu de temps. Parce que tu disais tout à l'heure, tu as mis 5 ans à lui dire. Donc, ça.
C'est elle qui a mis 5 ans à nous
dire. Oui, nous, on savait. Mais elle ne savait pas qu'on savait.
Non, mais moi, je la laissais. Je lui laissais le temps de venir nous dire, moi, ce que je te dis.
Mais t'es plus angoissée, tu veux dire, c'est ça.
Mais voilà, j'étais plus angoissée, j'étais plus en rejet du tout. J'étais juste en train d'essayer de comprendre, mais j'étais plus du tout en rejet.
Ce qui est super drôle, c'est que là, ce qui est en train de se passer, c'est une conversation qu'on a eue au niveau en dessous avec Marine, donc ma cousine, la fille de Jérôme, où on discutait avec les mamies de comment nos parents avaient appris l'homosexualité de leur mère, et où on était toutes les deux persuadées que notre parent l'avait très très bien pris, et que c'est l'autre parent qui avait été dans un rejet absolu.
Ah non, pas du tout. Non, non, on l'a vraiment mal pris, je pense.
C'est ce que j'ai.
Mais oui, une semaine, 10 jours, c'est.
Non, non, mais bien sûr. Pour comprendre. Ouais, mais c'est drôle parce que moi, j'étais persuadée que ma mère l'avait super bien pris et que c'est plutôt pour Jérôme que ça avait été compliqué parce qu'il était plus petit et tout ça. Et Marine était persuadée que Jérôme l'avait super bien pris tout de suite et que ça avait été beaucoup plus compliqué pour ma mère. Alors en fait, on voit que c'est pas. C'était juste que ça me fait rigoler, hein. Il n'y a pas de.
Mais ce qui est hyper intéressant à noter, par contre, en revanche, c'est qu'avec le recul, la hauteur et l'âge, on va dire, aidant, vous êtes capable de dire que oui, ça a été difficile pendant quelques temps, peut-être même que quelques jours, mais qu'en fait, ça n'a rien changé. Enfin, que vous avez grandi avec.
Ça n'a absolument rien changé. C'est-à-dire que, et comme Jérôme le dit tout à fait justement, moi, la séparation a plutôt été quelque chose d'assez salutaire me concernant, pas pour les mêmes raisons. Parce que je voulais partir en boîte, mais parce que je m'entendais quand même à cette époque-là très mal avec mon père, c'est très conflictuel et qu'il était très autoritaire. Et que du coup, moi, Françoise, je considère que ça a été la personne qui a permis à maman de...
Vous libérer.
De me faire confiance, en fait. Plus de faire confiance. Mais parce que maman, elle était stressée parce qu'elle avait des parents stressants, elle avait papa qui stressait à mort sur des points complètement débiles. Et Françoise, il disait, mais lâche-la, mais enfin, c'est bon, quoi. Et donc, maman était là, ah oui, tu as raison, mon amour. Et du coup, ça, j'ai beaucoup bénéficié de ça. Et c'est pour ça que il n'y avait pas que, enfin, il y a aussi cette incarnation à la fois de la relation qui était une relation qui, en effet, nous a pas du tout été imposée. Je veux dire, ça a été vraiment, ça a vraiment été extrêmement doux, enfin, comme elles sont extrêmement délicates, voilà, et de la même façon, nous, on n'a pas dit, hein, ben on sait, hein, tout de suite, parce que on respectait aussi cette pudeur-là, quoi, d'une certaine façon. Après, moi, ce que j'ai trouvé compliqué, moi, c'est de sentir ma mère souffrir, en se disant, en fait, je fais du mal à mes enfants, je suis une mauvaise mère, je suis, voilà, d'être dans cette culpabilité, hein, dont on sent qu'elle est encore là, quand même super présente. Maman, quand Amélie est née, donc c'est son premier petit enfant, quand Amélie est née, elle est venue au bout de 2 heures à la maternité, elle m'a pris la main et elle m'a dit « Je suis vraiment désolée que ta fille n'est pas... parce que ta fille ne va pas avoir une grand-mère normale. » Je lui ai dit « Mais enfin, maman, à quel moment... Enfin, je veux dire, elle va juste avoir une mamie dingue. Enfin, je veux dire, une mamie tellement... avec 12 milliards de qualité, de quoi tu... » Ouais, deux mamies, mais en l'occurrence, elle parlait d'elle, c'est pas le point important. Et donc, il y a quand même cette culpabilité qui a jamais été, traitée, enfin, qui a jamais été évacuée, qui est toujours là.
Oui, oui, oui.
Je pense qu'au mariage, ça a changé un peu. Depuis le mariage, ça doit être bien plus.
Ouais, ça a permis vraiment de mettre un pansement, comme disait tout à l'heure Françoise. sur toute cette culpabilité et ce vécu qui a été difficile.
Puis surtout que la petite fille, elle s'en est remise, quoi, aussi.
Oui, a priori, la petite fille, elle n'a pas l'air de s'en plaindre.
Oui, enfin, quand même, moi, je trouve quand même très symbolique que Amélie, au moment où elle l'a su de façon certaine, et je ne sais pas exactement quand est-ce que c'était, puisque quand je lui posais la question, je me faisais rembarrer de façon extrêmement violente, comme si j'étais totalement débile. Donc, voilà, donc je le faisais pas trop fréquemment. Elle a été freinée dans le fait de le dire à ses proches ou à ses moins proches d'ailleurs, par le fait qu'elle ne voulait pas que les gens disent « Ah d'accord, mais c'est génétique en fait. »
Ah mais oui, mais évidemment que ça a dû lui passer par la tête.
Ah, ça m'a pas passé par la tête, ça a resté 10 ans, ça a été un long passage.
Ça a été un gros blocage en fait. Donc il y a quelque chose, voilà, il y a quelque chose qui se transmet aussi, quoi, de cette culpabilité, des douleurs associées à cette histoire-là. Il y a des milliards de bonheurs, je veux dire, c'est évident, on est bien d'accord, mais...
C'est pas tant le rapport à l'homosexualité, pour moi, c'est pas l'homosexualité qui... Enfin, c'est pas l'histoire de l'homosexualité qui fait qu'il y a des problèmes, c'est vraiment le fait qu'il y ait toute cette honte autour, c'est-à-dire que l'homosexualité sans la honte aurait fait qu'il n'y aurait pas eu de problème derrière, en fait.
Quand je parle de douleur, je parle de honte.
C'est bien, mais je veux juste que ce soit clair pour...
Oui, oui. Mais je trouve que c'est super qu'il y ait des homosexuels, qu'il y ait des mères qui les entendent et qui soient sympas avec elles.
Ben, c'est sûr que forcément, votre situation a généré de l'ouverture, si elle n'était pas déjà présente de base, on va dire, hein, chez vos enfants. Mais du coup, pour les enfants à venir, le chemin, il était fait.
Mais pour vous, c'est génial parce que vous avez vécu le changement, quoi.
Oui.
Le vrai changement.
Oui. Ouais, c'est clair.
Vraiment dans l'air du temps. La culpabilité et plus du tout.
Alors, du coup, en revanche, moi, il se passe quelque chose de très singulier me concernant, c'est que, comme je suis, au fond, à la fois la fille et à la fois la mère, d'homosexuel, le moindre propos homophobe, c'est pas que ça me, c'est pas, c'est que rien de le dire, j'ai un truc qui se passe à l'intérieur de moi qui fait que je deviens folle. Mais c'est-à-dire, je ne suis plus du tout pédagogique, je suis ignoblissime. Tous mes intimes ont hyper peur, hein, quand on sort qu'il y ait, parce que ils savent, mes intimes, que ça va faire un clash, mais un clash où je vais être, je sais pas comment dire, on touche, à mes deux amours les plus précieux, enfin, je veux dire.
Bien sûr.
Et je ne souhaite pas du tout, finalement, cette position, même à ma pérennité, au moment où ça se produit, je veux dire, parce que pour le reste, évidemment, si, mais parce que c'est doublement douloureux, en fait, quoi.
Bien sûr, bien sûr. Et puis, c'est viscéral, hein, en tant que mère, c'est la chair de votre chair, donc, c'est la chair de ta chair. Donc, forcément, on ne touche pas à nos enfants, quoi.
Et puis, ma maman.
Voilà, les parents, c'est ce qu'il y a de plus cher pour nous. Donc, non, c'est. Oui, je pense que ça doit être une position extrêmement délicate. Déjà que nous, juste parents, on se sent investi d'une mission de les protéger par rapport à une situation qu'ils n'ont pas demandé à vivre. Alors, en plus, je comprends le. Ouh là là, la double casquette là, c'est. Ouf. Ouais. Je comprends complètement. Et dans tout ça. Quand Adrien est arrivé, vous avez été mis au courant du projet à quel moment ?
Je n'ai pas de souvenir, c'est les mamies qui vont pouvoir nous dire. À quel moment vous nous avez annoncé qu'Adrien était...
Alors, s'il n'y a pas de souvenir, c'est qu'il n'y a pas de sujet, j'ai envie de dire.
Je ne me souviens pas d'avoir un nom du jour où on leur a dit que j'étais enceinte ou que même avant, cherchais à faire un bébé. Je me souviens pas parce que là, justement, c'était un peu cafouilleux le.
Ouais, je pense que.
Là,
le contexte.
Mais en revanche, moi, je me souviens très bien du jour de la naissance d'Adrien où on était tellement flippés parce que il était prématuré, parce que on savait que c'était compliqué, qu'il était en vulnérabilité. On a dormi Jérôme et moi dans le même lit, alors qu'on fait jamais ça. Hein. Parce qu'il fallait qu'on soit ensemble tous les deux et on était complètement paniqués. On attendait le coup de fil, quoi. Tu te souviens, Jérôme ? Je me souviens pas. Enfin, moi, je me souviens, mais complètement de cette nuit où on était absolument paniqués à attendre des nouvelles. Ouais.
Là, les 2 ans d'écart doivent jouer sur les souvenirs, c'est sûr. Mais je comprends complètement. Et pour vous, vous aviez intégré que... La question telle que je vais la poser, je pense, est horrible, hein, soyons clairs. Mais pour vous, c'était intégré que c'était votre frère, à part entière.
Oui.
Ah, complètement. Moi, c'est ce que j'ai écrit quand on m'a demandé l'autorisation juridique, quand on m'a dit, voilà, on a besoin de votre autorisation pour que Adrien soit adopté par Odile. J'ai dit, je comprends pas ce document. Parce que
je comprends pas la question. Bah oui, non, mais c'est clair. Après, c'est sûr que dans votre contexte, dans la situation où la famille est soudée, effectivement, le document est incompréhensible, mais il y a hélas des familles où c'est pas le cas, quoi. Et donc là, le document a une vraie légitimité. Et comme le disait Françoise tout à l'heure, il y a effectivement des difficultés liées
à la succession.
Je trouve pas le mot. À la succession, merci. Liées aux successions, il y a des familles où il y a un enfant qui arrive qui n'a pas les mêmes parents, l'intégrer dans la succession. C'est compliqué, surtout que pour le coup, Adrien, il a été adopté, vous étiez largement adulte, donc très au fait de ce qui pouvait se produire dans le cadre d'une succession.
Il nous a ruinés, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais tellement noble personne. non, oui, mais j'imagine que dans les cas où les gens s'entendent pas et voilà, mais là vraiment ça.
Mais moi, c'est un peu le mariage aussi qui a aidé à tout ça, parce que quand il est né, Adrien, c'était pas mon frère pour moi, clairement. Mais dès les années plus tard, ça l'est devenu, en fait, parce que avant le mariage, mais avec le mariage, le fait qu'il soit adopté, ça m'a semblé complètement sain et naturel.
Ouais, en fait, c'était pas ton frère dans ton esprit parce que tu avais eu besoin de le connaître, ou parce que t'avais bien acté que
c'était pas mon frère. Enfin, je.
Oui, parce qu'il y avait pas de lien de sang, quoi.
Il y a pas de lien de sang d'une part, mais voilà, Françoise et maman n'étaient pas suffisamment engagées pour moi pour que ce soit mon frère aussi.
Ah, je comprends, ouais, mais je comprends. Ouais. Je comprends le. Alors que finalement, un enfant, c'est
avec
quand même
mariage,
beaucoup plus engageant
mariage,
qu'un mariage.
Ouais.
Ouais, c'est marrant. C'est marrant, mais ouais, c'est qu'il y a une valeur derrière le mariage qui est. D'accord, ok. Je comprends.
Vieille France, mon amour.
Pardon?
Elle me demande si je suis vieille France, je lui dis peut-être.
Et Adrien, du coup, toi, donc, t'as grandi avec deux mamans. Ça a toujours été, pour toi, ça a toujours été clair que tu avais deux mamans. Comment on grandit avec deux mamans? C'est une question complètement débile. Tu vas me répondre bien.
Ouais, en fait, moi, j'ai quand même été toujours un peu, je pense, marqué, mais jusqu'au collège et puis au lycée, par l'idéal du couple hétérosexuel, des parents hétérosexuels, la maman, le papa, et surtout au niveau du la recherche du modèle, parce que, pour le dire peut-être un peu rapidement, en étant né prématuré et du coup cardiaque, j'étais pas déjà dans les carcans de la masculinité idéale. Je sais que gamin, je voulais faire du foot, mais que c'était complètement impossible, parce qu'au bout de 3 minutes, j'étais essoufflé, raide mort à côté du terrain. Avec ça, j'ai eu vraiment une période où je me posais la question c'est un peu compliqué à formuler, mais où je savais pas trop quelle était ma place, quoi. Et le fait d'avoir deux mères à l'époque, je savais pas trop comment je pense gérer ça. Et et en fait, ça s'est débloqué, mais de manière étonnamment simple, pourvu les années où ça a quand même été dur. Ça a été en allant voir, je crois que c'était un psychologue ou un psychiatre. Françoise, ça tu pourrais le dire, tu t'en souviens peut-être mieux que moi.
C'était un psychologue,
ouais, qui m'a en fait posé des questions assez simples sur ce que je ressentais, les problèmes que j'avais, et puis après avec deux trucs qui m'ont, j'ai vraiment eu un moment de bascule où je suis passé de quelqu'un de très renfermé à quelqu'un de beaucoup plus ouvert, et il y avait un côté d'acceptance, mais encore une fois c'est dur de le lier au fait d'avoir deux mères, parce que c'était pas le fait d'avoir deux mères qui me posait problème. Parce que, encore une fois,
c'était pas
parce que les camarades de classe acceptaient bien. Moi, j'étais pas particulièrement en souffrance vis-à-vis de ça dans le foyer. Alors, j'ai fait ma crise d'adolescence comme tout le monde, mais j'étais pas dans un rejet, je rejetais pas le fait d'avoir deux mères. je pouvais avoir des conflits avec mes parents, mais c'était pas, je leur en voulais pas, par exemple, qu'elles aient choisi de, d'avouer, enfin, je leur en voulais pas de ça, quoi, particulièrement. C'était plutôt sur des trucs du style, de, enfin, à l'époque, c'était être devant l'ordinateur, c'était des trucs à la con, quoi, de, du gamin de cette, qui sont propres à cet âge-là. Et, au final, je pense que c'était plus dû à un problème lié, encore une fois, à la masculinité, à ce que ça représente, que au fait d'avoir deux mères. Donc, c'est pour ça que c'est un peu compliqué à répondre, parce que...
Et est-ce que dans la, le lot de ce que tu n'arrivais pas, entre guillemets, à catégoriser ou à classifier, tu t'es posé des questions sur ton géniteur ?
Oui, alors j'ai eu une période où je suis parti à la recherche d'Albert, du coup, mon géniteur, parce que en tant que mec, je me disais, ça va faire du bien de rencontrer mon père, ça va peut-être m'aider à me situer. Et ça a été un échec complet vis-à-vis de ça, alors... ça m'a pas face à un truc que j'ai pu passer rapidement, parce qu'au final j'ai été élevé par Odile, j'ai grandi avec Odile, donc j'en ai fait le deuil très rapidement. Mais quand j'ai vu mon père, on a parlé genre 5 minutes et puis je l'ai plus jamais revu parce qu'il désirait pas me voir, quoi. Donc je pense que ça m'a, paradoxalement, ça m'a aidé en fait à faire le deuil de ça aussi, de me dire oui, effectivement, de toute manière c'est pas mon père. Et la démarche, c'est déjà un peu artificielle en tant que telle, quoi. Ça m'a permis de faire le deuil assez rapidement de ce point de vue-là. Il y avait le fait aussi que, comme Françoise, elle avait aussi pas mal de copines lesbiennes qui étaient en couple et qui avaient des enfants, ça m'a aidé aussi à normaliser ça. C'est-à-dire que de me dire que j'étais pas tout seul, j'étais pas à part. En fait, c'est un truc assez banal. C'est juste que c'est pas tant répandu que ça dans la société, mais ça se fait.
D'accord. Ah oui, donc vous aviez, Odile et Françoise, d'autres copines qui avaient des enfants aussi à ce moment-là.
Il y avait Marie-Martine, il y avait Anne-Claude, je dois en oublier, il y avait ici... Ouais, vas-y, Françoise.
Oui, il y avait, quand on allait dans la Loire, là, où c'était tout petit, Anne-Claude, non, c'est Anne et... Anne-Claude, c'est des hétéros. C'est
Anne, ah oui, zut, Anne et...
Ouais, c'est ça, je me disais, je comprenais pas.
Oui, Pascal.
Oui.
Anne et Pascal. Ouais. Oui, il y en avait quelques. Oui, il y avait des couples avec des enfants.
Oui. D'accord. Oui, donc effectivement, ça aide énormément, hein, je pense, les enfants, de voir que d'autres familles comme la leur existent, et donc finalement, ils rentrent dans une sorte de normalité.
D'autant plus qu'on les voyait souvent, qu'on faisait souvent des soirées avec eux. Enfin, surtout Marie et Martine, et leur gamine, elle n'avait pas de problème, quoi. Donc, ça en faisait quelque chose de normal, quoi.
Et du coup, Odile et Françoise, donc Albert, il n'a jamais pris part du tout à l'éducation d'Adrien.
Pas du tout, jamais. Il n'a jamais répondu aux invitations, courriers. Ouais.
Mais j'ai envie de dire, c'est pas plus mal. Hein,
oui, non, mais c'est clair.
Oui.
Avec le recul, au final.
Mais une fois qu'il a fait le deuil de la relation, il est parti, quoi.
Complètement.
D'accord.
On n'a aucune nouvelle. Je ne sais pas s'il est encore vivant. C'est...
D'accord, ok. Ok. Mais c'est hyper intéressant d'entendre Adrien dire que des fois, enfin, c'est vrai que des fois, on idéalise un peu la personne qui peut y avoir derrière le donneur, et de prendre connaissance et conscience de qui est cette personne, et qu'en fait, il n'a aucun lien avec la famille et aucun rapport avec soi-même, finalement, à part le côté génétique éventuellement. Ben, c'est rassurant de s'entendre dire que, ben, en fait, c'est finalement personne, quoi.
J'ai une amie qui a été conçue. Avec une mère célibataire, donc cette mère a une histoire très peu de temps avec cet homme, même une fois, je crois. Et elle a revu son père, elle a connu son père à l'âge de 17-18 ans. Et parce que son mari était vachement curieux, disait on va voir qui c'est, et finalement elle me dit, mais cet homme, pour moi, c'est un étranger, c'est personne, elle l'a jamais revu, quoi. Et puis elle m'a même dit qu'elle n'en éprouvait pas de... C'est peut-être... Je me console peut-être avec ça aussi, avec l'histoire d'Adrien. Mais elle dit, j'en avais même pas de souffrance. Je me demandais qui c'était, ce gars.
Ah oui, non, oui, pour moi, il représente vraiment... Enfin, c'est rien, quoi.
Ouais.
Parce que t'as...
Je le croiserais dans la rue, je lui dirais pas... Enfin, même pas bonjour. Je suis même pas sûr de le reconnaître, d'ailleurs. Mais je me souviens d'avoir gardé sa photo pendant un long moment, de manière un peu ritualisée. Et au final, je ne sais même pas où elle est, cette photo. C'est possible qu'elle soit partie à la poubelle. Hein.
Non, je crois que je l'ai gardée.
Ah, d'accord. Bah, c'est peut-être plus pour te rassurer, toi, que pour
moi.
Oui, c'est ça. Et Adrien, tu disais souvent que tu avais des difficultés par rapport au modèle d'homme, comment te comporter quand on est un homme.
Oui, mais ça, c'est encore une fois, hein, je pense que... Dire bonjour pour... C'est pas un problème d'avoir été élevé par deux femmes, c'est vraiment un problème sur le modèle de masculinité aujourd'hui qu'on a dans notre société, qui fait que je me suis retrouvé à me poser des questions du fait d'être cardiaque, du fait de pas rentrer dans les cases de normes sociales dominantes sur la famille hétérosexuelle, l'homme viril. J'ai jamais été comme ça. Et c'est surtout ça qui m'a posé problème. C'est-à-dire que c'est pas tant le fait d'avoir deux mères, c'est le fait en fait qu'on a une norme masculine pourrie et que ça m'attire, pas du tout, quoi. C'est honnêtement, en reparlant, encore une fois, hein, j'ai jamais souffert du fait d'avoir été élevé par deux femmes. J'ai jamais été mal avec ça. Mes camarades de classe, mes amis, m'ont jamais rejeté pour ça. Les soucis que j'ai eu quand j'ai été harcelé au collège, quand j'ai fait une dépression, c'était en primaire que j'ai été harcelé, que j'ai fait une dépression au collège, c'était plus en tant que parce que il y avait une catégorie de mecs que je devais rentrer dedans et que c'était pas mon truc, quoi, c'était pas mon délire. Mmh. Donc j'ai plus souffert à cause de ça que pour l'autre raison. Et encore une fois, des enfants élevés par des femmes. J'en croisais avec Émilie régulièrement, et Émilie, elle allait très bien, quoi. Donc, moi-même, rapidement, j'ai fait le deuil de ça, quoi, parce qu'il n'y avait pas de souci avec les autres enfants élevés par des parents homosexuels. Donc, mm-hmm. au bout d'un moment, c'était pour moi, c'était évident que le problème venait pas de là, parce que de tous les jours, il n'y avait rien qui indiquait que c'était ça qui posait souci.
Quand t'es rentré au collège Vendôme, t'étais grand, t'as grandi assez rapidement, et t'avais plein de petits mecs, entre parenthèses, et pas des petits tracailles, mais presque, qui venaient te serrer la main dans le matin, quand t'arrivais, ils venaient te serrer la main, ils te proposaient de t'accompagner au métro, tu te souviens? Par respect, parce que t'étais grand.
Alors ça vous me l'avez toujours raconté, vous l'avez toujours raconté cette anecdote, mais j'en ai aucun souvenir.
Tu t'en souviens pas?
Non.
C'est marrant.
Tu disais, mais pourquoi ils viennent me serrer la main parce qu'il était plus grand et...
Peut-être arrivé une fois.
Je l'ai pas inventé.
Ouais.
Ça m'avait fait...
Et vous, Odile et Françoise, du coup, quand vous alliez aux réunions parents-prof, ce genre de choses, vous précisiez que vous étiez deux mamans?
Moi, j'y allais.
D'accord. Bon, en plus, en étant dans le milieu, je pense que ça passait plutôt crème.
Oui, je savais nager dans les...
C'est ça. Là où nous, on est un peu. Quand on y va, on a l'impression qu'on repart au collège, quoi.
Quelque chose peut-être qu'on n'a pas précisé aussi, c'est qu'il y a quand même eu une phase où on a eu du mal à se penser légitime en tant que parent et fils. Notamment, je me souviens avec vis-à-vis d'Odile où. Il y avait un moment donné où ça allait pas, quoi. C'était j'avais du mal à voir Odile comme ma mère. C'était, je crois, c'était peut-être collège lycée parce que ça allait avec la crise d'ado. Mais c'était encore une fois, c'était en dehors des trucs un peu plus lourds qui m'ont arrivé. C'était plus, je pense qu'il y avait aussi bien d'un côté de d'Odile et Françoise que de moi où on savait pas. On était un peu gênés par ça, je sais pas. Mais
c'était une question de représentation, peut-être.
Ouais, j'ai du mal à prendre nos places, quoi, parce que il y avait aussi le fait que, je sais pas, j'ai jamais utilisé par exemple le mot maman. Je l'utilise peut-être maintenant plus, mais j'ai mis vraiment un temps à l'utiliser. Pour moi, c'était Odile et Françoise, et même aujourd'hui encore, Françoise et Odile, je pense que vous pouvez confirmer que je vous appelle pas trop maman. Que ça reste Françoise et Odile, quoi.
Pendant tout l'enregistrement, tu as dit Françoise et Odile, je me suis fait réflexion, effectivement.
Ouais, alors aujourd'hui, c'est pas, parce qu'il y a eu l'adoption et le mariage, c'est plus du tout le cas, mais il y a eu une période pendant l'adolescence, je pense, où il y avait une sorte de mal-être, mais c'était pas parce que, par exemple, je sais pas, Odile était pas présente ou qu'elle jouait pas bien son rôle. C'est un peu comme se retrouver dans des rôles qui sont pas qui paraissent pas évidents d'un point de vue de la société, et de savoir de dire un peu comment est-ce qu'on fait ça, comment est-ce qu'on joue ça, et d'être un peu mal à l'aise avec ça. Mais je sais pas si t'en souviens, François, peut-être t'as des souvenirs un peu plus clairs, ouais, avec ça.
Je vois ce que tu veux dire. C'est difficile. Après, il se mêle des soucis de boulot qu'on a, on n'est pas disponible, toi qui fais ton adolescence et moi qui perçois pas bien où tu en es, c'est difficile de lire toujours, souvent un adolescent, voir où il en est, ouais. Pour moi c'est une difficulté.
Mais c'est un truc qui aujourd'hui, je dirais, est complètement enterré, enfin, qu'il y a plus de... on s'engueule encore, hein, avec mes parents, mais c'est pas, encore une fois, c'est pas du tout lié au fait d'avoir deux mères, quoi. Enfin, je le perçois pas comme ça.
Ouais, c'était l'adolescence, quoi. Où chacun cherche sa place et surtout toi qui devais chercher la tienne.
Oui.
Les parents aussi cherchent leur place, oui. Par rapport à leur...
Oui, parce que c'est la première fois que vous éleviez un gamin avec, en étant deux femmes, quoi. Donc, mine de rien, c'est peut-être ça aussi qui était pas forcément évident.
C'est ça, et puis je sais pas comment Emmanuel et Jérôme étaient...
C'est possible que la culpabilité parasite la relation aussi, hein.
Ça, et puis, est-ce que vous aviez Emmanuel et Jérôme en garde alternée ou les aviez tous les... Ah, punaise, pardon, toute la semaine avec vous? Enfin, tout le temps.
Oui, ils étaient adultes, là.
Là, ils étaient adultes parce que Jérôme, tu devais être encore à la maison, non?
Moi, j'étais chez mon père en partie, en fait, une semaine sur deux.
Mais c'est vrai que des fois, quand il y a une résidence alternée, ça permet d'avoir un sas de décompression, quoi. Et peut-être que là, du coup, vous étiez dans une adolescence, tous ensemble, et il n'y avait pas de sas, quoi.
Eux, c'était plutôt des jeunes adultes, hein, Emmanuel et Jérôme.
Ah ouais, pour moi, c'était vraiment, c'était des adultes. Et je pense que c'est aussi ça qui fait qu'au final, y a une proximité qui est relative. Enfin, je les apprécie énormément, mais on n'est pas proches comme pourrait l'être peut-être des frères et sœurs, et comme la relation que vous avez aussi entre vous deux, entre Emmanuel et Jérôme, parce que il y a cet écart d'âge, en fait. Et encore une fois, je pense pas que ça ait besoin d'aller chercher sur les deux mères pour l'expliquer. C'est simplement que l'écart d'âge fait que.
Mais clairement, t'as pas grandi avec.
On n'avait pas les mêmes délires.
Nous, en tant que petits enfants, c'est à Noël, non, qu'on en parlait, où on était là, putain, mais en fait, c'est trop chelou, t'es notre oncle, en fait. Enfin, tu vois, jamais on a appelé Adrien tonton, quoi. Enfin, ça ne viendrait même pas à l'idée. Tonton, c'est Jérôme. C'est pas Adrien. Mais parce que limite, on avait une relation de cousin, quoi. Il m'a appris à jouer aux cartes Magic.
Mais en même temps, vous avez combien d'écart? Vous avez 6 ans d'écart?
T'étais tout petit quand je suis née.
Ouais.
Quoi, t'es dans 49, on a 5 ans d'écart.
4 ans.
4 ans d'écart. Vous êtes frère et sœur. Ouais. Enfin, cousin, à la rigueur.
On est plus dans des problématiques de famille recomposée, là, je dirais, que de famille homoparentale.
Ouais, complètement.
Oui, c'est ça. C'est clair.
Ou de famille où il y a, tu sais, des générations d'écart entre le frère qui a des enfants au moment où il y a un enfant qui naît. Enfin, voilà, des familles où il y a des générations complètes d'écart.
C'est ça.
D'accord, bon. En tout cas, vraiment, je vous remercie beaucoup. Vous avez une famille qui est hyper plaisante à voir, parce que moi, je vous vois. Alors, les auditeurs ne vous verront pas, mais moi, je vous vois. Je vois que vous êtes soudés tous ensemble, que vous avez certes vécu des difficultés, mais comme n'importe quelle famille vit, et c'est normal, c'est l'histoire de la vie. Mais vous êtes rassurants pour nous, parents de petits-enfants qui vont être amenés à grandir dans des configurations familiales qui sont la vôtre, qui sont votre réalité. Vous êtes hyper rassurants. Merci. Merci d'avoir bien voulu témoigner, parce que je pense qu'il n'y a pas qu'à moi que ça va faire du bien. Ça va faire du bien à beaucoup de familles homoparentales.
Merci.
Merci
à toi. Merci beaucoup. Non, ne vous inquiétez pas, cette saga familiale ne s'arrête pas là. La parole sera maintenant à la troisième génération, celle des petits-enfants.
je vous propose que nous nous retrouvions lundi prochain avec eux. D'ici là, parce que je sais que vous vous en inquiétez, je retrouve Léa et Caroline du Fil Rouge pour de nouveaux enregistrements, avec une rentrée sur les chapeaux de roue pour les unes comme pour les autres. Nous avons attendu d'atterrir pour mieux nous retrouver. Je vous rappelle qu'elles sont instites, donc la rentrée c'est un des gros temps forts de l'année. Enfin, vous me demandez souvent comment soutenir le podcast. Le meilleur moyen est de lui donner plus de visibilité. Partage sur les réseaux sociaux, notation sur les plateformes d'écoute, bouche à oreille, et je sais qu'il fonctionne bien. En gros, faites du bruit. Plus vous en ferez, plus ma reconnaissance sera grande. Merci, merci, merci pour votre soutien. Et maintenant que vous avez la pêche, je vous souhaite une excellente semaine. Less alone, less alone. Josephine, even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest, so I grab what I can cling to and I leave behind the rest. I'll hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out.
Searching for the perfect gift idea for that hard-to-buy person on your list? The Allbirds Wool Runner is a natural fit. The Wool Runner is super cozy, super comfy, and super giftable. It's made with ZQ-certified merino wool, a naturally cozy material that offers next-level comfort and a lower environmental impact. The cushioned midsole and versatile design offer all-day comfort in a classic style you can wear every day, even in a winter wonderland. And its fully machine-washable construction makes it easy to keep your shoes looking like new. Allbirds shows off the Wool Runner's carbon footprint right on the shoe so you can see the difference for yourself. On top of that, they actually offset that carbon footprint to zero, making the Wool Runner completely carbon neutral, so you can stay cozy and tread lighter on the planet. This holiday season, give tidings for comfort and coziness with the Allbirds Wool Runner. Discover your perfect pair at allbirds.com. That's A-L-L-B-I-R-D-S.com.